la Bible et puis qu'elle puisse pénétrer nos cœurs. J'aimerais ce matin donc lire deux textes d'introduction. Le premier texte se situe dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 5. Voilà, Apocalypse, chapitre 1, verset 5. « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Notre second texte d'introduction, nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Amen. Il ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, qui rappelle avec force ce que Jésus a fait sur la croix, sa mort à la croix et sa résurrection. C'est fondamental, c'est central dans notre foi. J'allais dire que c'est même une fête qui est plus importante que Noël, même si Noël, j'allais dire, d'une manière populaire, a plus de notoriété et beaucoup plus fêté. Mais néanmoins, la fête qui commémore, j'allais dire, l'événement le plus important est bel et bien la fête de Pâques, qui tire aussi son origine dans une autre fête, une fête juive, qui est la fête de Pâques aussi, qui rappelle la délivrance du peuple d'Israël au sortir d'Égypte, lorsqu'il fallait que les enfants d'Israël mettent sur les linteaux de leurs portes le sang d'un agneau qui avait été sacrifié auparavant, afin que l'ange exterminateur ne touche pas les premiers-nés de chaque famille. Et ainsi, cela nous montre déjà qu'au travers de cela, l'œuvre de Jésus à la croix qui a versé son sang pour chacun d'entre nous afin que nous soyons pardonnés. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Pâques, ce matin, j'aimerais me concentrer sur un point précis, c'est sur le sang de Jésus. On n'a pas toujours l'habitude de faire toute une prédication sur le sang de Jésus, on l'évoque, on en parle souvent, parfois voilà, il y a un point dans une prédication, on l'évoque brièvement, rapidement, mais ce matin, vraiment, ça sera le cœur du message et on peut parler du sang qui donne la vie, le sang de Christ qui donne la vie, boire le sang de Christ. Il en est question dans ce passage. Quand on parle du sang de Christ, ce sang qui a été versé pour chacun d'entre nous, ce sang qui est là pour notre justification, ce sang, le sang de l'agneau de Dieu, qui est là pour notre purification aussi, pour notre délivrance, pour notre rédemption, ce sang qui est là pour nous faire entrer dans le lieu très saint, ce sang aussi pour sceller une alliance entre nous et Dieu, ce sang qui est là, nécessaire, indispensable pour le pardon de nos péchés, et ce sang, nous le verrons à la fin, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Beaucoup de choses, hein. Et encore, on pourrait énumérer certains points, on pourrait être là jusqu'à ce soir, mais rassurez-vous, je sais que vous avez peut-être faim ce midi et je ne serai pas trop long. Alors, le sang de Jésus, sang de Jésus, et là, Jésus va parler de son sang et les paroles que Jésus a dites à ce moment-là a scandalisé les Juifs, mais pas simplement, mais on voit aussi que cela a scandalisé même ses propres disciples. Ils ont été choqués d'entendre parler Jésus de la sorte. Et si on avait même continué notre passage, on voit que plusieurs de ses disciples l'ont quitté à ce moment-là parce que il y avait des paroles de Jésus qu'ils ne comprenaient pas et ça semblait dur à leurs oreilles. Effectivement, Jésus vient de dire de manger sa chair et de boire son sang. Alors, surtout dans un milieu juif, il faut bien comprendre que cela était considéré comme impur. Et Jésus dit de boire son sang. Ils n'avaient pas compris, et Jésus le précise pour autant au verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Bien sûr que Jésus n'invite pas à boire son sang d'une manière physique, littérale, il n'invite pas au cannibalisme là, à ce moment-là. Et là, il ne comprenait pas que derrière les paroles que Jésus leur donnait, il y avait quelque chose d'hautement symbolique qu'il fallait pour nous, et bien que ça devienne une réalité. Et même pour nous, j'allais dire qu'ils ne sont pas forcément d'origine juive, si on nous dirait de boire du sang, ah, c'est quand même un peu répugnant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous auriez le courage, si vous aviez, si je faisais circuler un verre de sang, heureusement qu'on met du vin, hein, ou du jus de raisin, mais imaginez que ça serait vraiment du sang. Est-ce que vous le prendriez? Bon, ce n'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Mais on a bien compris que Jésus, et il le dira lui-même, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le sang de Jésus nous donne la vie, et ce sang nous donne une vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, dira-t-il au verset 56, demeure en moi et je demeure en lui. Et nous savons que celui qui se nourrit de la chair de Christ et qui boit son sang, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire boire le sang de Jésus? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour nous? Qu'est-ce que Jésus a-t-il voulu parler? À ce moment-là, bien sûr, déjà, il annonçait sa mort sur la croix, une mort qui fut sanglante, puisque Jésus a été crucifié, les clous sont rentrés dans sa chair, le sang a coulé de ses mains, de ses pieds, mais pas seulement, il y avait la couronne d'épines aussi, le sang a coulé de son front, et puis auparavant aussi, n'oublions pas qu'il avait été fouetté, donc le sang coulait de son dos, donc le sang de Jésus a été versé, il a saigné à plusieurs endroits, et Jésus nous invite à boire ce sang qui a coulé sur la croix. Boire ce sang de Christ, c'est s'approprier, en fin de compte, c'est ça, s'approprier par la foi le sacrifice qu'il a fait pour chacun de nous, vivre de ce sacrifice en sachant que c'est ce sacrifice de Jésus à la croix où son sang a coulé qui nous donne la vie. Jésus Eh bien, lorsque je m'approprie ce sacrifice-là, Jésus, je réalise avec foi que c'est pour moi, que c'est pour moi qu'il est mort sur la croix. Ce n'est pas simplement pour les autres, ce n'est pas simplement pour l'humanité entière, mais c'est chacun pour soi. Je reconnais par là que j'ai besoin de ce sang. Le sang que j'ai dans mes veines ne peut pas me produire la vie éternelle, ne peut pas me faire naître et devenir enfant de Dieu. Rappelons-nous quand même que Jean dira par ailleurs que nous sommes nés de Dieu non pas par la volonté de l'homme, ni par la chair, mais que nous sommes nés de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et pour cela, j'allais dire, il nous faut un autre sang, il nous faut le sang de Christ. Ce sang de Christ qui nous rachète, ce sang de Christ qui nous a délivré de nos péchés par son sang. On l'a lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse que le sang de Jésus nous délivre de nos péchés. Il y a une question de délivrance, c'est-à-dire que vraiment le péché nous colle à la peau, le péché nous tient, le péché nous retient, le péché nous tient esclaves et vraiment on a besoin d'en être détaché, d'en être délivré et pour cela il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous donne la nature de Christ, qui nous donne la nature de Christ. Le sang, on pourrait lire certains textes, l'âme est dans le sang, comme dit, il est écrit dans certains textes de la parole de Dieu. Dans certains peuples de cette terre, on voit ça en Afrique, mais pas seulement, dans d'autres continents aussi. Certains peuples, certaines ethnies, certaines tribus boivent du sang des animaux qu'ils ont chassés, qu'ils ont tués. Pourquoi ? Pour s'approprier eh bien, les qualités, les vertus d'un animal. Si, eh bien, on peut, certaines personnes boivent le sang d'un lion pour se donner le courage et la force de lion. Je ne dis pas que ça le fait, mais dans leur croyance, dans leurs idées, ils se procurent ainsi la force du lion ou si c'est une gazelle, la rapidité d'une gazelle. Voilà. Donc, et ils mangent certaines parties de ces animaux pour s'approprier aussi eh bien, leur qualité. Et on peut comprendre ici quand Jésus dira « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang ». Et là, il est une chose certaine, c'est que si nous sommes dans la foi au sacrifice de Jésus, si nous sommes en communion avec lui, il est une chose certaine, c'est que les qualités de Christ, les sentiments de Christ vont s'imprégner en nous. Alléluia. Ils vont s'imprégner en nous et au fur et à mesure de notre marche chrétienne dans la foi, eh bien, nous allons ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus. Tout à l'heure, il a été question d'un passage dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Et depuis le début de la Bible, c'est-à-dire la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, on voit dans la Bible du sang partout. Il y a du sang partout dans la Bible. Hein. Vous avez remarqué ? Jusqu'à la fin, on voit dans le livre de l'Apocalypse, à plusieurs passages dans le livre de l'Apocalypse, il est question de sang. Et dans l'Ancien Testament, c'était en préfiguration de l'œuvre de Jésus à la croix. Notamment, on voit que lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, il y a eu une rupture dans la relation entre Dieu et Adam et Ève. Ils ont péché. Et lorsque Dieu les a appelés, ils sont partis se cacher. Hein. Ils avaient peur. C'est comme les enfants quand ils font des bêtises. Ils évitent la présence de papa et maman. Ils essayent de se cacher. Mais bon, papa et maman ne sont pas nés de la dernière pluie. Et ils savent très bien, eh bien comment faire pour rectifier les choses. Alors, et là, donc, il y a une rupture dans la relation entre Adam et Ève. et Dieu, mais aussi une ombre certaine entre Adam et Ève. Voilà, j'allais dire la relation verticale a été brouillée et ça a brouillé la relation horizontale. Il y a une honte. C'est sa première fois, il a été question de honte dans le livre de la Genèse. Il y a une honte vis-à-vis de Dieu et une honte aussi l'un vis-à-vis de l'autre, à tel point qu'ils se sont fait des feuilles pour couvrir leur nudité. Mais ça n'a pas suffi. La honte était toujours là. La honte était toujours là. Et il a fallu que Dieu lui-même prenne l'initiative de tuer un animal. Enfin, il y en a eu probablement deux, puisqu'il fallait couvrir Adam et il fallait couvrir Ève. Et pour couvrir leur honte et pour qu'ils puissent aussi vivre en société d'une manière normale, il a fallu qu'ils se couvrent et aussi pour pouvoir se présenter devant Dieu. Donc des animaux ont été tués à cause, j'allais dire, de la faute d'Adam et Ève. Ces animaux, ils y étaient pourquoi? Est-ce qu'eux, ils étaient responsables? Ils n'étaient pas responsables du tout. Je veux dire, les pauvres bêtes. Hein, je veux dire, c'est... Voilà, j'allais dire, quelque part, ces animaux ont eu la conséquence de la faute d'Adam et Ève, de la chute d'Adam et Ève, alors qu'ils n'étaient pour rien. Christ est-il coupable? Jésus est-il coupable? Il est sans péché. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre, mais il est totalement sans péché. Et pour autant, il est mort sur la croix, son sang a coulé, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu. Son sang nous couvre, son sang nous donne cette justice que nous ne pouvions pas avoir de nous-mêmes. Nous sommes ainsi en Christ trouvés justes aux yeux de Dieu, non pas que nous soyons sans péché, mais nous nous approprions, j'allais dire, le sacrifice de Christ, et grâce à cela, eh bien, nous savons que nous sommes trouvés justes devant les yeux du Seigneur et que nous pouvons nous présenter devant lui. Jésus est celui qui est mort pour chacun d'entre nous. À peine, eh bien, quelqu'un mourrait pour une cause ou pour une raison particulière. Mais Christ prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs ennemis de Dieu, il est mort pour chacun d'entre nous en versant son sang. On dit parfois qu'une telle personne a donné son sang pour sa patrie. C'est une expression que l'on trouve, donner son sang pour sa patrie. Voilà. Tellement le sens de la patrie est là, tellement l'amour de la patrie, certains vont jusqu'à se sacrifier pour leur patrie. Et puis, nous le savons, eh bien, notre illustre ancêtre gaulois, si les Gaulois sont nos ancêtres, bien sûr, pas pour tout le monde, mais puisque nous sommes en France, eh bien, on va dire que nos ancêtres sont les Gaulois, Vercingétorix a donné sa vie pour que le pouvoir de Rome épargne la Gaule. On sait qu'il y avait une guerre entre la Gaule et le pouvoir de Rome. Rien à voir avec Astérix et Obélix. Hein. Voilà, il n'y avait pas des irréductibles à ce moment-là. Hein. Les irréductibles ont été quand même battus à plate couture. Mais justement, pour éviter Rome détruise toute la Gaule, eh bien Vercingétorix a donné sa vie pour que Rome épargne la Gaule. Quelque part, j'allais dire que c'est l'exemple de Jésus, mais lui, il l'a fait pas simplement, j'allais dire, pour que nous soyons épargnés physiquement. Mais c'est bien plus important que cela, ça a une portée éternelle, car il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Que son nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie, ton sang a coulé pour cela, afin que nous puissions vivre à lui seul, soit toute la gloire. Nous sommes délivrés de nos péchés par son sang, mais aussi purifiés. C'est différent, délivrés et purifiés. On peut être délivré de quelque chose, mais en avoir encore sur soi la salissure. Voyez, il nous faut être délivré, mais aussi être lavé, purifié de nos péchés. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être purifié par le sang de Jésus. Alors, bien sûr, il y a une condition. Si nous marchons dans la lumière, il ne faut pas oublier cela, hein, c'est important. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Voilà. L'importance vraiment d'être dans la lumière, de marcher dans la lumière, d'être en communion avec Dieu, et il est dit, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Ce sang-là, vraiment, va pénétrer tout notre être, de la même manière que quand on boit un liquide, et là, il est question du sang, ça va, bien sûr, entrer dans notre bouche, aller dans notre estomac, mais, j'allais dire, tout ce qu'il y a va aussi rentrer dans nos veines, dans notre chair, ça va nourrir tout le corps. Et ainsi, j'allais dire, ce sang de Christ va nous pénétrer au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, de notre esprit, afin de nous débarrasser de toutes les scories, de toutes les impuretés qui peuvent exister, afin de nous débarrasser, de nous purifier de tout péché. Merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. On pourrait lire encore dans la même pensée, dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, c'est avant Jean, 1 Pierre, chapitre 1er, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Merci Seigneur. Nous avons été rachetés. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas faire, Christ l'a fait. Je veux dire, est-ce qu'on connaît la valeur d'une âme ? La valeur d'une âme, nous en avons toutes, j'allais dire, le prix. Et Jésus, pour payer ce prix, est monté sur la croix. C'est donc bien que, aux yeux de Dieu, ça a de la valeur et que son rachat est cher. Que tout l'argent de ce monde ne suffirait pas, on pourrait cumuler les richesses de certains hommes de cette terre, d'Elon Musk, de Bill Gates, de tous ces hommes-là qui sont multimilliardaires, ça ne suffirait pas pour acheter un seul millimètre de notre être. Il nous faut le sang de Christ qui est celui qui nous rachète et qui rend possible cette rédemption, qui rend possible cette justification, qui rend possible cette purification, que Dieu soit béni. Il a été question de communion, de cette communion mutuellement en communion. Est-ce que nous pourrions nous tenir dans la présence de Dieu comme ça ? Je vais dire, même si nous étions bien habillés, est-ce que nous pourrions nous tenir dans la présence de Dieu ? Dans l'Ancien Testament, on a une belle image de cela, c'est le souverain sacrificateur. Vous savez, c'était le chef des prêtres, on va dire, le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur avait un habit sacerdotal, c'est-à-dire un habit de souverain sacrificateur, un bel habit, donc des pieds à la tête, voilà, il avait son costume, j'allais dire, avec aussi les pierres précieuses là, qui rappelaient les tribus d'Israël. Il y avait différentes textures dans cet habit, mais ça n'aurait pas suffi pour que le sacrificateur entre dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Il y avait un rideau, c'est comme si on mettait le rideau. Personne n'a le droit de monter sur l'estrade. Sauf le souverain sacrificateur. Voilà, c'est un peu ça, en fin de compte. Hein. Mais en fin de compte, nous, heureusement, c'est ouvert. Hein. Alléluia. Hein. Tout est ouvert et tout le monde peut monter. Mais là, il faut bien se rappeler, c'est comme si c'était ça, en fin de compte, le rideau est fermé. Et là, derrière, il y a l'arche de l'Alliance qui est là. Et on y rentrait combien de fois ? D'ailleurs, seul le souverain sacrificateur pouvait y rentrer. Une fois par an. Et est-ce que son bel habit lui suffisait pour entrer ? Il fallait qu'il apporte du sang. Il fallait qu'il apporte du sang. Le sang qui provenait d'un animal qui avait été sacrifié, pauvre bête, lui aussi était pour rien. Mais ça montrait quoi ? Que quelqu'un avait payé, justement, lui, tout souverain sacrificateur qu'il était, lui aussi, non seulement il représentait tout le peuple, mais pour lui aussi, c'était pour lui aussi que ce sang était apporté, sinon il n'aurait pas pu entrer dans le lieu très saint qui représentait la présence de Dieu, il aurait été foudroyé sur place. Il aurait été foudroyé sur place. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que quand on lit le livre de l'Épître aux Hébreux, c'est que maintenant, oui, le voile a été déchiré. Merci Seigneur, lorsque Christ est monté et mort sur la croix, le voile a été déchiré et il présente son sang devant Dieu le Père et nous pouvons maintenant le suivre dans cette présence même de Dieu. Sinon, nous ne pourrions pas entrer dans le lieu très saint, nous ne pourrions pas nous tenir dans la présence de Dieu, car Dieu est trop saint pour nous accepter dans sa présence, mais grâce au sang de Jésus-Christ, mais j'ai payé pour eux. Et nous pouvons maintenant nous tenir dans la présence de Dieu, et ça c'est extraordinaire. On peut lire par exemple dans Hébreux chapitre 10, verset 19, Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Alors, il est dit ici, nous avons au moyen du sang de Jésus. Donc, nous pouvons vraiment entrer dans la présence même de Dieu, dans la présence sainte et merveilleuse du Seigneur. C'est une grâce, c'est un privilège qu'il accorde à tous ceux qui ont confessé le nom du Seigneur Jésus, qui se sont fait leur, qui se sont appropriés pour eux-mêmes dans la foi le sacrifice de Jésus sur la croix. Ils peuvent s'approcher, nous ne voulons pas nous priver de cela. Et nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi. Oui, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, nous pouvons nous approcher avec assurance de la présence de Dieu, qui est celui qui aime aussi la présence de ses enfants. Merci Seigneur pour ce que tu fais, et nous ne voulons pas nous en priver, que Dieu soit béni. Le sang scelle l'alliance qui est faite entre nous et Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 26. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang de l'Alliance. Les alliances étaient faites avec du sang, pas toutes, mais certaines alliances étaient faites avec du sang. Et là, il y a une alliance importante, capitale, qui est faite entre Dieu et nous. Dieu est un Dieu d'alliance. Il fait des alliances. Notre société est régie par des alliances. Les alliances, par exemple, dans le mariage, les alliances avec des entreprises, des alliances politiques. On est rempli d'alliances aujourd'hui. Quand on regarde tous les contrats, tous les partenariats que nous pouvons avoir, et nous savons que ces alliances sont respectées. Quand elles ne sont pas respectées, il y a des réparations qui doivent être faites. Ça a des conséquences. Quand une alliance est brisée, quand une alliance n'est pas respectée, il y a des conséquences. Une alliance a été faite entre Dieu et nous, et cette alliance a été scellée, cette alliance allait dans le sang de Jésus. Dieu a fait une alliance avec nous dans le sang de son Fils Jésus, et nous savons que ça a du prix aux yeux de Dieu et que lui, il est fidèle. Que jamais il ne rompra cette alliance. Il est même dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et on le voit, il a fait aussi une alliance avec le peuple d'Israël, et malgré leurs multiples infidélités, Dieu est un Dieu d'alliance et il reste fidèle. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que nous pouvons être sûrs de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas une alliance que Dieu prend à la légère. Cette alliance, elle est dans le sang de son Fils. Et lorsque, chaque dimanche, nous prenons la coupe, nous rappelons cette alliance. Il y a beaucoup de choses à dire sur la coupe, une coupe de bénédiction. Et quand nous prenons cette alliance, nous nous rappelons à notre foi, nous rappelons à notre cœur que Dieu a fait une alliance avec nous. Alléluia. Et jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne trahira cette confiance qu'il a faite avec nous. Jamais il ne nous laissera tomber, mais toujours il sera à nos côtés. Et les promesses qui sont liées à cette alliance s'accompliront certainement. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Promesse de pardon. Nous avons dans le sang de Jésus, comme cela est écrit encore dans le livre de l'Épître aux Hébreux, nous avons dans le sang de Jésus un pardon plein et total. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mais Christ est celui qui est monté sur la croix. Il a versé son sang pour la délivrance de nos péchés, pour notre purification, pour notre justification, pour faire une alliance avec nous, entre Dieu et nous. Et pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Donc nous sommes délivrés de nos péchés, nous en sommes purifiés et nous en sommes pardonnés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Parce que nous avons en Jésus un plein pardon pour tous nos péchés et nous ne sommes pour rien. La seule chose que nous avons faite, c'est de croire au sacrifice de Jésus. Cette foi qui nous a amenés à la repentance, et cette foi qui, aujourd'hui encore, nous amène et nous conduit à marcher avec lui chaque jour de notre vie. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, je lis au verset 10 et 11. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi ? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. De qui il est question quand il est parlé de l'accusateur de nos frères ? De qui il est question ? Il est question de quelqu'un qui nous accuse devant Dieu jour et nuit. De qui il est question là ? On n'a pas lu ce qui était avant, mais il est évident qu'il est question du diable, de Satan. Satan qui est celui qui nous accuse devant Dieu. Il nous accuse comme il a accusé Job en son temps. Il nous accuse afin de nous enfoncer, afin que Dieu exerce une sentence sur nous. En montrant, pointant du doigt nos péchés. Et c'est pour cela que souvent nous avons tendance à nous culpabiliser parce que il est l'accusateur des frères, il nous accuse devant Dieu, mais il accuse aussi notre conscience et il nous accuse devant les autres frères. C'est pour ça que ça génère des conflits entre nous. Mais quand je vois un frère en Christ, quand je vois une sœur en Christ, je vois aussi le sacrifice de Jésus. C'est aussi pour lui, pour elle, que Christ est monté sur la croix. Et si Christ lui a pardonné, qui suis-je moi pour ne pas pardonner à mon frère ou à ma sœur en Christ ? Son sang a coulé pour moi, mais son sang a coulé aussi pour ma sœur en Christ, pour mon frère en Christ. Et je ne veux pas me laisser accuser parce que je sais que je suis pardonné aux yeux de Dieu grâce au sang. Donc c'est pour ça que nous avons une victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, parce que nous sommes dans la certitude, dans l'assurance, dans la foi que son sang est pleinement suffisant pour notre justification, que nous n'avons plus, j'allais dire, à nous accuser. Si Dieu, qui est plus grand, nous a pardonné, alors merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sang de Jésus, mais j'aimerais juste, pour terminer, lire un dernier verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Il est question de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Notre frère Jonathan, tout à l'heure, a introduit la Sainte Cène en parlant d'Abel, en parlant de ce qui s'est passé entre Abel et Caïn à ce moment-là. Il est parlé du sang de Jésus, de ce sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce qu'il disait le sang d'Abel ? Pour comprendre ce texte, il faut savoir ce que disait ce sang d'Abel. Au chapitre 11, verset 4, on voit qu'il est parlé encore là d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc on sait qu'Abel a fait un sacrifice d'animaux parce qu'Abel avait compris qu'il était un pécheur et il avait offert ces sacrifices-là, et c'est par la foi qu'il l'a fait. Son frère, pris de jalousie, a tué son frère Abel. Et il a été lu tout à l'heure ce que Dieu a entendu, le sang de ton frère crie. Le sang de ton frère Abel, il crie. Et il crie quoi ? Vengeance. Voilà ce que dit le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclame une justice, le sang d'Abel réclame une vengeance. Mais en quoi le sang de Jésus parle-t-il mieux ? Est-ce que le sang de Jésus parle de vengeance ? Il parle de quelque chose de plus excellent. Le sang de Jésus parle de quelque chose de meilleur que la vengeance. Il parle de pardon. Oui, il est coupable, mais j'ai payé pour lui. Alléluia. Et Dieu entend le sang de Jésus. Comme il a entendu en ce temps-là le sang d'Abel qui criait vengeance, il entend. Et c'est en ceci que Jésus est notre intercesseur auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père. Oui, ce sont des pécheurs, mais j'ai payé pour eux. Alléluia. Ah, merci Seigneur pour ton sang. Et nous voulons, j'allais dire, vivre dans cette foi-là, nous boire ce sang de Christ qui nous apporte toutes ces choses, vraiment nous approprier pour nous-mêmes le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est dans ses meurtrissures que nous avons la guérison, que nous avons cette assurance de pouvoir nous tenir dans la présence même de Dieu. À lui seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Merci pour la croix, comme nous aimons chanter ce cantique. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste terminer avec le verset avec lequel j'ai commencé, simplement en le lisant, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors à lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que son nom soit béni. On va le remercier de tout notre cœur. Merci Seigneur Jésus d'avoir versé ton sang pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons. Et Seigneur, quelle joie, quel bonheur de pouvoir nous tenir sans réserve dans ta présence, de pouvoir te célébrer, de savoir qu'en toi nous avons un pardon, le plein pardon de nos péchés, que nous avons la délivrance et la purification de nos péchés, que nous avons en tout temps une pleine victoire en ton sang, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons faire nôtre, nous approprier ton sacrifice à la croix. Oui, Jésus, tu es monté sur la croix pour chacun d'entre nous, mais tu as même vaincu la mort. Tu es ressuscité, Seigneur, et notre espérance, elle est en toi. En toi, Seigneur, que nous verrons un jour, nos yeux te verront un jour, et nous te célébrerons dans la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, que cette certitude puisse vraiment en tout temps rester dans notre cœur. À toi la gloire et l'honneur, la force et la puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.